Mesdames et messieurs, chers amis, au nom du groupe Nicolas et Dorothée de Flux, j'ai la très très grande joie de vous accueillir ce soir. Je vous accueille aussi en particulier de la part du père Nicolas Butet. Vous savez que chaque année, maintenant depuis un certain nombre d'années, ces rencontres Nicolas et Dorothée de Flux sont organisées. Elles l'étaient sous un thème et cette année le thème a un tout petit peu évolué. Il s'appelle « L'aventure passionnante de la foi dans la vie active ». Nous ne croyions pas si bien faire en commençant par le mot « aventure », car ce soir nous allons la vivre avec une bonne nouvelle et avec une surprise. La bonne nouvelle, c'est bien entendu que Michael Lonsdale sera avec nous dans cette salle, interviewé avec et par le père Nicolas Butet. Et la surprise, c'est que tous les deux se trouvent pour l'instant à Bari, en Italie, et que donc vous les aurez sur l'écran. Ils sont là, je les ai vus là derrière. Ce sera un dialogue interactif et vous pourrez y participer vous-même. Dans un premier temps, nous allons avoir une bande-annonce introductive. Ensuite, je passerai la parole au père Nicolas Butet à Bari, qui tiendra quelques propos introductifs, puis qui s'entretiendra avec Michael Lonsdale pendant environ 40 à 45 minutes. Et ensuite, je vous le dis déjà tout de suite, pour le cas où vous seriez démangé en les entendant, vous pourrez poser des questions ou interagir avec eux. Alors, on est tellement nombreux que ce ne sera pas possible pour tout le monde. Voilà, nous sommes particulièrement heureux d'être là avec vous, au début d'une rencontre qui promet d'être passionnante. D'ailleurs, vous êtes très nombreuses et très nombreux. Vous ne vous y êtes pas trompés. Le programme de cette année est de très, très belle qualité. Mais lorsqu'on dit qu'il est de très belle qualité, c'est une manière un peu humaine de dire les choses. En fait, manifestement, la qualité ici, elle vient d'ailleurs. On sait d'où elle vient. Elle est présente dans nos intelligences et dans nos cœurs. Écoutons-la, soyons-y disponibles. Eh bien, ces applaudissements, Michael Lonsdale et père Nicolas Butet, vous disent à quel point la salle ici à Saint-Maurice vous accueille chaleureusement. Vous n'en voyez probablement qu'une partie, mais elle est vraiment pleine, pleine, pleine de personnes qui sont heureuses d'être avec vous ce soir, qui savent bien sûr que vous auriez aimé être avec nous dans la salle, mais on vous voit pratiquement comme si vous y étiez. Vous êtes encore en plus grand que nature. Je suis ravi maintenant de vous passer la parole, tout en rappelant que j'ai annoncé tout à l'heure que vous allez entrer en dialogue pendant 40-45 minutes et ensuite que les personnes présentes pourront engager ce dialogue avec vous. Voilà. Père Nicolas, la parole est à Bari.
Merci Nicolas. Bonsoir à chacune et chacun. Grande joie d'être là avec Michael, ici en direct avec vous. Les miracles de la technique sont quand même extraordinaires. Que nous étions rencontrés à Paris il y a quelques mois en arrière, Michael rentrait juste du Maroc et me parlait qu'il venait de tourner ce film des hommes et des dieux et qu'il allait sans doute essayer de faire le montage pour pouvoir être présenté en concours au Festival de Cannes. Et quand il m'a parlé du scénario, je me suis dit « Ouh là là, ça peut intéresser quelques sacristilles, mais puis quelques milieux cathos ». Et quand j'ai vu qu'il était présenté, alors j'ai dit « Mais écoute, il faut que tu viennes nous en parler à Saint-Maurice ». Et donc, on avait pris date à ce moment-là pour venir ici avec vous ce soir-ci. Et puis, quand j'ai vu que le film était présenté à Cannes, on a beaucoup prié pour que ce film puisse toucher les cœurs. Et c'était le cas, puisqu'il y a eu 10 minutes de standing ovation à Cannes, dans un silence et une émotion absolument extraordinaire. Personne ne pouvait s'imaginer, je crois pas même toi, Michael, et Xavier Beauvois non plus, et tous les acteurs, que vous arriveriez presque à 3 millions de spectateurs en France. Des droits ont été vendus dans plus de 50 pays maintenant, et puis il reste les Oscars, encore aux États-Unis au printemps. Donc tout n'est pas fini pour l'aventure de ce film, l'aventure extérieure par toute cette émotion qui a été suscitée, cet intérêt, l'aventure intérieure dans les cœurs, parce que je crois que celles et ceux qui ont vu ce film ont été profondément bouleversés par ces actes d'amour, ces actes de liberté, ce témoignage extraordinaire de ces moines désarmés, démunis devant la violence, mais armés de la plus belle des armes, qui est l'arme de l'amour, l'âme du cœur. Voilà, alors Michael, on l'a vu dans quelques grands grand film, on l'a vu sous le nom de Hugo Drax dans Moonraker, c'était en 1979. On l'a vu dans Le Nom de la Rose avec Jean-Jacques Hano. On l'a vu avec, on n'a pas vu avec Marguerite Duras, puis c'était quand même un grand moment avec Indian Song.
Indian Song, oui.
Qui était tourné, alors, c'est un grand amour, parce que c'était à Calcutta, mais en fait, c'est tourné à Boulogne, j'ai appris.
Non, ça s'est tourné dans la région parisienne.
Ça,
tout
oui.
Le monde m'a dit, oh, quel beau voyage vous avez fait en Inde. J'ai dit, oh oui, c'était passionnant. Mais on est resté tout à fait dans la banlieue parisienne.
Alors que la scène se passait à Calcutta, en fait,
oui,
normalement.
Oui.
Voilà. Et puis, donc, c'est une filmographie de plus de 150 films. Michael Lonsdale, c'est aussi du théâtre, des films avec Buñuel, bien sûr, Costa Gavras, Molinaro, Frankenheimer, Steven Spielberg, François Truffaut. C'était aussi des pièces de théâtre avec de Ionesco, Dürrenmatt, Claudel, Pirandello, Tchekhov. La mouette et tant d'autres activités comme ça, des spectacles aussi qui m'ont beaucoup touché. On m'appellera Petite Thérèse, Les Fioretti de François d'Assise, le récit d'un pèlerin russe, un spectacle avec Madeleine Delbrel, aussi une figure bouleversante et tellement attachante de l'époque du Concile finalement, hein. Une femme qui est allée athée, communiste, qui se convertit et qui sera avec les plus pauvres dans les régions communistes de la banlieue parisienne. Voilà, Sœur Emmanuelle qui se prépare aussi, je crois, maintenant un spectacle, Saint-Bernard-Avant, voilà, toute une aventure absolument extraordinaire. Alors, quand on s'est recontacté, eh bien, Michael avait eu cette invitation à venir tourner un film ici à Bari, dans le sud de l'Italie, avec Armando Olmi, qui avait déjà signé L'Arbre au sabot. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui apprécie beaucoup ce film. Voilà. Et donc, on a dit, ben, on va essayer de faire un duplex, puisque ça tourne aujourd'hui, ça tourne demain matin, à partir de 6h30. Et donc, Michael a accepté avec beaucoup de joie d'être avec nous de cette manière-ci. C'est un grand cadeau. Merci de nous partager ça. Alors, cette aventure, peut-être quelques mots d'abord sur l'aventure des hommes et des dieux, ce bouleversement, cet effet dans les cœurs. Comment se trouve quand on est à Cannes et que tout le monde se lève alors qu'on a travaillé d'arrache-pied pour ce film?
Oui, avant de raconter quoi que ce soit, j'aimerais dire l'émotion que j'éprouve d'être avec vous sans y être tout en y étant. C'est cette magie de la technique qui permet de... Je vous vois là tous assis comme ça et je suis triste de ne pas être vraiment dans la salle avec vous. Mais enfin voilà, on est quand même en contact, et donc je vais répondre à la question de Nicolas. Et c'est donc un film qui s'est fait dans une simplicité totale, un dépouillement. Je crois que les 7 acteurs qui ont été engagés pour jouer les moines ont fait un séjour d'abord dans un monastère cistercien, qui leur a fait le plus grand bien. Moi je n'ai pas allé avec eux parce que je travaillais, mais je connais bien la règle des cisterciens, et ils pensaient trouver des vieux moines barbons qui allaient leur casser les pieds ou ne pas les voir. Ils sont tombés sur une bande de jeunes avec qui ils ont parlé, et ils ont été très impressionnés de voir la lumière, la vivacité et l'échange qui s'est fait avec ces moines, avec qui ils sont restés souvent en contact. Donc, je crois que le fait d'être habillé, comme ça on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais là je crois qu'à partir du jour où ils ont revêtu le costume des moines cisterciens, ils étaient remplis d'une espèce d'attitude extrêmement sérieuse et tout à fait, comment dire, touchée profondément dans leur cœur de devoir interpréter ces personnages tout à fait exceptionnels, quoi, ces gens qui vont finir par faire ce que le Christ nous demande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors ce tournage s'est fait dans la joie, le plaisir. Il n'y a pas eu l'ombre d'une dispute, d'une contrariété, rien. Et on était comme portés par quelque chose qui nous dépassait. Et c'est un des plus grands moments pour moi de ma vie de comédien.
Merci. Il y a une scène dans le film, tu disais que Xavier Beauvois t'avait dit maintenant improvise cette scène merveilleuse, on l'a vu tout à l'heure avec cette jeune fille, et il y a cette question de ce grand amour. Mmh. As-tu été amoureux? Et oui, plusieurs fois, et puis à un moment donné, il y a un autre amour plus grand encore qui est rentré dans ma vie et j'ai répondu à ce grand amour. Alors c'est frère Luc, bien sûr, dans le film, mais c'est peut-être aussi l'auteur. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous dire pour ce grand amour qui est rentré dans ta vie aussi?
Ah ben ça, c'est... Oui. Si j'ai accepté ce rôle, c'était avec une joie profonde, parce que je pense que le frère Luc est un modèle de vie chrétienne absolument parfaite. C'est vraiment le don entier de soi pendant 40 ans, de 7 heures du matin jusqu'à souvent 10 heures le soir, et même des fois jusqu'à minuit. Il recevait tous les malades qui venaient, et les gens venaient de loin, parce qu'évidemment c'était une consultation gratuite, ils recevaient des médicaments sans rien payer. Et il y avait même des gens, des Européens, qui venaient voir Luc pour des conseils, parce que c'était un peu un sage, et les Algériens le considéraient un peu comme un marabout, c'est-à-dire celui qu'on va voir quand il y a des problèmes. Alors souvent, il venait pour des questions de mariage, et la petite jeune Algérienne vient en effet le voir, parce qu'elle est complètement déboussolée par son père qui veut l'obliger à épouser quelqu'un qu'elle connaît même pas et qu'elle aime pas. Donc elle demande, mais c'est quoi l'amour? Et je me suis dit, qu'est-ce que le frère Luc pourrait répondre? Et voilà, alors en effet, le metteur en scène m'a dit, tu sais, moi j'ai écrit un truc, mais c'est pas bon, improvise, ce sera beaucoup mieux. Et j'adore improviser, et voilà, j'ai fait une très courte prière. Et puis j'ai dit ce qu'il me semblait que le frère Luc aurait dit à cette jeune femme.
Et pour ta propre vie, Michael, à toi, tu étais baptisé à 22 ans.
Oui.
Quelle était cette aventure? Comment les choses sont arrivées?
Oh, c'est arrivé très lentement. Ça n'a pas été le fruit d'une révélation soudaine, d'une espèce d'abandon ou de, comment dire, d'être saisi par le Christ. Non, ça s'est fait comme souvent dans ma vie, très lentement. Ça a commencé en Angleterre quand j'étais petit. Mon père était protestant, mais sans pratique. Maman avait fui tout ce qui était les pensions catholiques des sœurs en Angleterre, parce qu'elle ne devait pas être très sage, et qu'on lui avait dit, tu finiras en enfer, tu seras damné. Alors elle a pris les jambes à son cou et elle est partie. Mais elle n'avait aucune hostilité envers le Christ. Et c'est quand même elle qui m'en a parlé le premier. Elle m'a donné un petit livre sur Jesus, que j'ai toujours à la maison. Et ça m'a touché de façon obscure, comme ça. Et ensuite, c'est venu tout doucement. On s'est retrouvés partis pour le Maroc pour 6 mois. Mon père avait trouvé un job en 1939, un ancien officier de l'armée qu'il avait quitté. Et on est resté 10 ans au Maroc. Et on a séjourné chez un neveu de cette femme que le père de Foucault aimait tellement, qu'il aurait bien voulu épouser avant de se convertir. Et cette femme avait plein d'enfants, et un de ses enfants, moi, Tessier, nous a loué des chambres dans son appartement. Et tout d'un coup, un jour, je le vois dans le corridor, il bougonnait comme ça, il disait, oh là là, que c'est vilain, tous ces trucs. C'était des petites statuettes sulpiciennes, bien sûr, des petites Thérèse, des émaux de Saint-François d'Assise, des petites choses. Et il dit tout ça, oui, oh, je crois que je fiche tout ça en l'air. Et moi, je me suis avancé, Dieu sait que j'étais timide et que je n'osais pas parler, mais j'ai dit, oh non, on ne peut pas faire ça. Alors il m'a regardé très étonné, il a dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'il a, le gosse, ça lui plaît? Ma mère a dit, oui, j'ai l'impression. Oh, ben moi je te les donne si tu veux, hein, mais tu m'en débarrasses. Bon, moi j'ai pris ça comme un trésor sacré. J'ai fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit coin prière. J'avais mes petites statues et mes émaux et des images pieuses, comme ça. Pour moi, ça représentait quelque chose que je ne pouvais pas nommer, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était sacré. Alors après, j'ai rencontré des musulmans au Maroc, dont un m'a presque converti, puis ça j'étais plus âgé alors, j'avais 18 ans, à l'islam, parce qu'il m'a parlé de Dieu, c'est le premier, dans les cafés le soir au Maroc, quand on y allait, fait chaud, on se réunit et on parle, et ce musulman m'a parlé de Dieu, d'une façon évidemment islamique, mais enfin, qui m'a beaucoup impressionné à tel point que je me suis dit, oh ben pourquoi je ne serais pas musulman? Et c'est juste au moment où nous sommes rentrés en Europe, mes parents sont séparés, je me suis retrouvé dans la famille française de ma mère, et là, à peine arrivé, comme je faisais de la peinture et que je désirais être comédien, une amie de ma mère m'a dit, il faut l'envoyer au l'atelier d'art sacré, place Fustenberg, c'est l'ancien atelier de Delacroix, et il va sûrement rencontrer des gens qui vont lui plaire. Bien dit, parce que je suis allé dans ce merveilleux place Fustenberg, dans ce merveilleux atelier, et là, il y avait un père dominicain qui s'est mis à parler de la foi et de l'art. Et tout ce qu'il a dit m'a complètement subjugué. À tel point qu'on voit qu'il était très timide, j'ai osé aller le voir à la fin en disant « Monsieur, je ne savais pas qu'il fallait dire mon père, je n'étais pas au courant. » Et voilà, ça me plaît ce que vous avez dit, est-ce que je pourrais vous parler ? Il m'a dit « Mais oui, bien sûr, c'était un père dominicain qui s'appelait Régamé, qui se consacrait beaucoup à l'art. Et donc, c'est lui qui m'a un peu questionné, mais qu'est-ce que tu souhaites ? Qu'est-ce que ça ?» Bon, je passe un peu les étapes. Ensuite, j'ai eu droit de la part du Seigneur à une merveilleuse marraine qui m'est tombée du ciel, une femme aveugle, rencontrée dans la rue, et qui m'a pris aussi par la main pour me conduire au baptême. Et c'est à 22 ans que j'ai été baptisé chez les Dominicains de la rue de la Glacière, enfin le couvent Saint-Jacques à Paris. Et c'est une nuit inoubliable, absolument. C'était un baptême. Je pleurais tellement que je comprenais pas ce qui se passait, mais je sais que je pleurais. Je pouvais pas, je sanglotais, c'est bien simple. Alors, c'était un peu gênant, mais je pouvais pas m'arrêter. Et puis, le soir, on rentre dans la maison. Enfin, on a fait le déjeuner comme de baptême avec mon parrain, ma marraine. Puis le soir, je me rappelle m'être agenouillé comme ça, devant mon lit. Et j'ai répété oui, 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 oui. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, oui, ça voulait dire « Seigneur, j'adhère à tout ce que tu dis, tout ce que tu demandes, et je vais essayer d'être un bon chrétien ». Et voilà, ça a commencé donc avec ce merveilleux qui a été mon père spirituel jusqu'à sa mort, à l'âge de 90 ans, et il a été, lui qui m'a, comment est-ce qu'on dit, qui m'a initié, qui m'a parlé de Dieu et du Christ comme il fallait, quoi. Et il connaissait bien, il était très psychologue, il connaissait le genre de nature que j'avais, les difficultés que ce serait, mais il m'a encouragé beaucoup, beaucoup. Et voilà. Alors j'ai eu la chance de pouvoir de trouver du travail assez vite. J'ai passé 2 ans dans un cours merveilleux avec une femme inoubliable, Tania Balachova, une grande actrice, qui avait un cours où elle aimait d'amour ses élèves et où elle m'a appris à me dépasser. Elle m'a dit « Je ne vous apprendrai pas à être comédien, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas, je pense que vous l'êtes, mais alors il faut que je vous apprenne à faire tout ce qui est difficile dans ce métier. » Parce que moi, je passais toujours des scènes comiques, des choses amusantes, ou alors un peu douloureuses, comme Tchekhov. Puis un jour, elle me dit « Je voudrais que vous me fassiez une chose un peu plus dure, un peu plus violente. » Alors elle me demande de faire le premier acte du misanthrope, Alceste, qui est de mauvaise humeur, visité par son ami Philinte, et qui arrive et qui lui dit « Mais qu'est-ce donc, avez-vous ?» Et l'autre répond « Laissez-moi, je vous prie, etc. »« Mais encore, dites-moi, laissez-moi, etc. » Bon, je passe la scène, elle me dit « Oui, c'est pas mal, mais il manque quand même quelque chose. Vous voyez, il y a une contrariété dans ce personnage d'Alceste. Il n'est pas content. Alors essayez de me montrer ça. » J'essaye, mais la violence, j'avais horreur de ça, tout ce qui était dureté, cris, menaces, je fuyais toujours. Et puis je recommence, elle me dit « Oui, mais non seulement il n'est pas content, mais il est très fâché. » Ah bon ? Alors je commençais à me sentir mal, parce que très fâché, comment est-ce que je peux jouer ça ? Je ne sais pas, moi. J'essaye, ça ne donne rien. Après, elle me dit « Mais il est fou, furieux. Il est hors de lui. Il faut absolument que vous montriez cette couleur. » Mais je dis, mais madame, moi je sais pas être méchant, je peux être très méchant, mais pas quand on me demande sur commande. Et alors elle a employé les très grands moyens, elle était très psychologue et intelligente, elle m'a dit, écoutez, si vous ne me montrez pas que vous pouvez être violent, je peux pas vous garder dans le cours. Et pour moi, c'était comme si on me donnait un coup d'épée, quoi. Je veux dire, elle est extraordinaire, cette femme. Le cours, il y avait Delphine Seyrig, Laurent Terzièvre, Trintignant, plein de gens qui sont devenus de grands acteurs, et c'était son instruction était magnifique, intelligente et belle. Alors, je me suis dit, bon, c'est fini maintenant, je vais partir, je commençais déjà à pleurer. Alors, on recommence la scène, alors qu'est-ce donc, avez-vous ? Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'absolument inhabituel. J'ai attrapé une chaise comme ça en bois, et j'ai pris la chaise et j'ai dit, laissez-moi, je vous prie. Je me suis mis à hurler. Ah, elle m'a dit, voyez que vous pouvez être méchant. Bon, j'avais le cœur qui battait. Et puis je suis rentré à la maison, je me suis allongé pendant 2 heures, j'avais le cœur qui battait tellement fort que je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas faire ce métier, etc. Et voilà, donc grâce à cette femme, Tania Abala, à cheval, je lui rends hommage, je la remercie. Elle m'a sorti de ma coquille, elle m'a dit, vous comprenez, un acteur, ça doit pouvoir tout jouer, tous les sentiments humains, les bons, les méchants, les jaloux, les tendres, les pieux, les féroces. Et j'ai même joué le rôle du diable dans Les Frères Karamazov. Des gens m'ont dit, mais ça t'a pas fait peur? Mais j'ai dit, il faut bien que quelqu'un le joue. Et c'est un rôle magnifique, c'est un diable épouvantable, mais d'une intelligence et d'une subtilité terrible. C'est chez Dostoïevski, un des plus beaux personnages de ses livres, tellement c'est intelligent, et voilà. Alors merci Tania, merci pour elle, elle est morte, oui, maintenant il y a 25 ans, mais je lui dois tout à cette femme, sur le plan professionnel. Alors tout ça, ça allait avec la vie spirituelle, tout doucement. Je peux pas dire que j'étais pratiquant bien sérieux, je priais, j'aimais pas prier tout seul. Et puis après, alors à l'âge de 40 ans, les drames sont arrivés, les séparations, les êtres chers, ma mère, mes deux tantes, mon oncle, ma marraine, sont tous morts la même année. Et alors là, je suis tombé dans un gouffre de terreur, de marasme, de dépression totale. Je ne pouvais plus, je voyais dans la rue, quand je marchais, je voyais les gens comme des cadavres. C'était une souffrance intolérable. Et à tel point que j'ai quand même eu la force de dire à Seigneur, fais quelque chose sur moi, parce que ça, j'ai plus envie de vivre. Je peux pas supporter la séparation des êtres aimés. Et alors, le Seigneur m'a envoyé mon parrain, qui passait par hasard à Paris, et qui m'a dit, viens, écoute, si tu veux, je t'emmène là, à côté de chez toi, dans une église, il y a des prières, des gens qui prient, et viens. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, ben viens, tu verras, si ça te plaît, tu resteras, si ça te plaît pas, tu pourras sortir. Et il m'emmène à une réunion charismatique de l'Emmanuel à Saint-François-Xavier, c'est-à-dire à 200 mètres de chez moi. Et là, je suis, une fois entré dans cette réunion, ça avait déjà commencé, quand j'ai entendu les chants en langue, quand j'ai vu les mains levées, quand j'ai vu les paroles de science, j'ai ressenti un tel bonheur de libération, et je me suis dit, voilà, merci Seigneur, tu m'as envoyé quelque chose qui pour moi est très important. Étant né le jour de la Pentecôte, j'ai toujours une espèce de, comment est-ce qu'on dit, petite émotion chaque fois qu'on mentionne l'Esprit Saint. Et là, on était en plein dedans, et ça a été une révélation pour moi, et je n'entre pas à l'Emmanuel parce que pour des raisons artistiques, je suis pas toujours d'accord sur ce qu'ils font, mais oui, je veux pas cautionner des choses que je n'aime pas en art, et bon, mais enfin, en tout cas pour l'esprit et la rencontre, le partage avec les frères, la découverte de la prière, alors je me suis mis à prier comme un fou, surtout avec les autres, voilà. Et donc après j'ai cheminé tout doucement, et puis il y a eu les grandes sessions de parelmoniales l'été, où je vais tous les ans, et je trouve le renouveau quelque chose qui redonne une espèce de vie, de partage, de présence les uns aux autres, d'accueil des gens, et de prier pour les gens. D'abord c'est très bon pour eux, et ils demandent qu'on prie pour eux. Ils peuvent venir dans ces réunions, on est 4-5 à prier pour eux, ils sont plus seuls, vous voyez. Donc il y a tout un travail comme ça de partage, et ça c'est essentiel. Je crois que l'Église doit aller complètement vers ce genre de proximité avec les prêtres, que les prêtres soient avec eux, qu'ils prient ensemble. C'est capital, parce que sinon on tombe encore dans une certaine tradition de politesse vis-à-vis de Dieu et de respect qui paralyse. Non, le Seigneur est là avec nous, vivant, et on a besoin de se le dire les uns aux autres et de prier beaucoup, 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 beaucoup. Voilà un petit peu en gros le cheminement.
Je lisais ce passage qui poursuit un petit peu dans ce que tu viens de dire là maintenant. Je disais, j'allais sans cesse au cinéma, au théâtre, c'était un véritable besoin en 86, puis j'ai perçu que cette fascination n'était que distraction, qu'elle n'était peut-être pas habitée par l'esprit. L'art ne peut jamais être le sens complet d'une vie, la fin ultime. Dieu seul donne un sens et peut rendre véritablement fécond. Tu l'expérimentes aussi dans ton activité d'artiste.
Oui, parce qu'elle est double. Je fais de la peinture, et pour moi, la peinture est un plaisir inouï c'est une consécration de la matière. Vous voyez, qu'est-ce qu'on met sur une palette comme ça, des morceaux de peinture, ces petites couleurs informes, enfin pas informes, belles couleurs, mais il s'agit pour moi, j'aime la peinture quand la matière est aimée. Ce qui me gêne terriblement et me chagrine, c'est dans la brusquerie et la violence de beaucoup d'artistes d'aujourd'hui. Ce n'est plus du travail. J'aime beaucoup le mot artisan plutôt qu'artiste d'ailleurs. Se dire artiste est un peu prétentieux. Mais un artisan, c'est quelqu'un qui soigne et qui a besoin de... On ne peut pas faire un meuble en faisant n'importe quoi. Donc il y a un travail, une lenteur, un temps incroyable consacré. Et quand je vois les peintres anciens, Rembrandt, Titien, Greco, je regarde leurs tableaux, la matière de leur... Et c'est comme une caresse d'amour. La matière chez Rembrandt, c'est aimer, on sent qu'elle est respectée, qu'elle est mise en beauté. Alors ça, c'est un des grands principes. J'aime les coloristes, j'aime Bonnard, j'aime Chagall, j'aime les gens. Verre Gamet me disait toujours, la couleur harmonieuse est une prière. Et voilà, alors donc il y avait ça que dans ma vie, que je pratique toujours. Et puis ce métier de comédien qui m'a dévoré et qui a été difficile. Tania me disait toujours, vous ne ferez pas grand-chose avant 30 ans. Vous êtes ni anglais ni français, on ne sait pas ce que vous êtes. Et voilà, il faut vous affirmer, oser, et puis à partir de 30 ans, vous aurez du travail. Et c'est en effet très vrai. J'ai tourné quelques films comme ça, dans un état de désespoir et de peur intense. J'étais malade, j'avais le cœur qui battait, je me sentais mal. Et puis j'étais engagé pour le théâtre, et je faisais plus de théâtre avec joie et paix et amusement. Et voilà, alors après ça s'est enchaîné. En effet, à partir de 30 ans, avec François Truffaut qui m'a donné deux rôles dans Baiser volé, et puis dans La mariée terre noire, et puis à partir de là, ça c'est... On m'a proposé des rôles, j'ai pu enfin choisir. Au début, Tania m'avait dit, faites pas le difficile, hein, acceptez tout. Tout ce qu'on vous propose. Et puis des petites choses modestes, hein. Faites pas le prétentieux. Bon. Et voilà. Alors ça a été très long. Mais j'ai pu après alors travailler avec des grands metteurs en scène comme Orson Welles, avec des gens pour moi qui étaient des demi-dieux dans ce métier. Et puis j'ai donc cheminé et les grandes révélations, enfin je parle encore un petit peu de ça, mais les grandes révélations de la vie spirituelle, ça a été le pardon qui a pris tout d'un coup une place dans ma vie. Je me disais quand même, le Seigneur te demande... C'est la prière la plus longue dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et alors, je me suis mis à prier. Et j'ai eu des rapports avec mon Père, pas douloureux, parce qu'il était plutôt absent. Il ne me faisait pas comme font les papas, c'est-à-dire il ne m'emmenait pas aux eaux, ou très peu. Enfin, il me faisait jouer aux échecs ou aux cartes avec lui. Mais il ne me parlait pas. Il ne disait pas grand-chose. Ce que je ne comprenais pas très bien, mais enfin bon, ça ne me chagrinait pas. Mais c'était quand même une absence. Et le jour où je me suis mis à prier pour la famille, pour tous les membres de ma famille que j'ai connus, et puis, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que j'avais complètement oublié mon père. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a, tu lui en veux à ce point, pour l'avoir oublié dans tes prières? Et j'ai réfléchi, je me dis, voyons, je lui en veux, plus que je ne pense. Alors j'ai remué les souffrances en disant, oui, que j'avais vécu avec lui. Et puis, je lui ai demandé pardon. Parce que mon père était quelqu'un qui avait été mis dans une armée, un Saint-Cyr anglais à l'âge de 14 ans. C'est-à-dire avant qu'il n'ait pu choisir lui-même sa vie. Et il en est sorti jeune lieutenant à 18 ans, on l'a envoyé à Sierra Leone, colonie anglaise à l'époque. Là-bas, on lui a dit, ici, tu sais, il faudra beaucoup boire ou pas boire du tout. Et mon père, qui avait horreur de cette colonie, des Africains, des Noirs, tout ça, a commencé à boire. Ensuite, il est monté en grade capitaine, ensuite on l'a envoyé en Inde, il est monté en grade encore un peu, et puis à 30 ans, il a quitté l'armée. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ton père n'a pas eu sa vie à lui, il a eu une vie imposée. Il n'était pas fait pour être soldat. Bon. Alors après, il a rencontré ma mère, qui était mariée avec un officier de la marine anglaise. Ils sont partis en cavale tous les deux. Je suis né de leurs amours. Et j'étais donc un enfant illégitime. Je n'en souffrais pas. Et donc, j'ai prié pour mon père. Je lui ai demandé pardon, vraiment sérieusement, en pleurant. Et chose extraordinaire, j'ai rêvé de lui la nuit suivante. Il venait vers moi en me tendant la main, habillé dans un vieil imperméable anglais, je me rappelle, et dans un geste d'accueil. Ça m'a quand même frappé. Et alors ce pardon, après, ça a travaillé. Et je me suis dit, il y a dans notre famille, du côté de ma mère, des histoires d'enfants, adultérins, enfin c'était très compliqué, on ne savait pas qui était l'arrière-grand-père. C'est, je raconte ça pour expliquer ce que ça peut faire, la prière. Et il y a toujours ce mystère, mais qui est l'arrière-grand-père? Mais on ne sait pas. Il y a l'arrière-grand-mère qui a fauté avec un monsieur, et il est né un enfant adultérin, mais qui a été reconnu par un autre homme, enfin bon, toute une histoire. Et toujours le mystère comme ça, c'est agaçant quand on essaie un peu de savoir d'où on vient. Il faut pas non plus en faire une histoire compliquée, hein. Mais enfin, je me suis dit, je vais prier pour ses ancêtres que je ne connais pas, d'où on vient. J'ai prié le lendemain, du jour où j'ai fait ça, au café là en bas de chez moi, je déjeunais avec un homme qui avait été fiancé avec une cousine à moi, et ça n'avait pas marché, parce que, je passe les détails, et je lui parle, il me demande des nouvelles de ma cousine, là, Dominique. J'ai dit, elle n'est pas bien, elle est en maison de santé, mais tu sais, dans la famille, ça a été compliqué, on ne savait pas d'où on venait, etc. Et il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, mais moi je sais d'où vous venez. Quoi ? Toi, tu sais ça, mais comment ? Alors, je ne vais pas vous raconter trop de détails, mais ça avait été révélé à la femme de Malraux, qui s'appelait Clara, qui était une amie de ma tante, Janine, enfin bref, qui, elle, savait d'où on venait, mais c'était tabou, il ne fallait pas en parler. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que le lendemain même du jour où j'ai prié pour ses ancêtres, il y a quelqu'un qui vient me dire qui sait. C'est quand même, je trouve ça extraordinaire, quoi. Alors après, j'ai su un peu, mais je n'ai aucune preuve de rien. Je sais qu'il y a 3 générations d'enfants illégitimes. Alors j'ai dit merci Seigneur de m'avoir donné la vie après 3 épousailles comme ça, illégitimes, parce que tu as bien voulu que je vive quand même. Alors voilà, grand merci Seigneur pour la vie.
Tu parlais de la force de ce pardon, on le voit aussi avec dans le film avec Christian de Chergé qui pardonne. Est-ce que c'est ça la force de réconciliation pour soi-même et pour le monde?
Oui.
C'est là que s'enracine pour toi le...
Je crois que cette phrase est capitale. Le pardon est un salut pour l'âme. C'est parce que comment il s'appelle, Pascal Hyde, qui est un père qui a beaucoup travaillé, qui est médecin, qui a travaillé, il m'a dit, regarde autour de toi les gens qui s'aiment pas. Alors en effet, il y avait dans mon immeuble une vieille dame, acariâtre, comme ça, méchante, dans la rue. Elle me disait, qu'il crève. Je dis, mais qui, madame? L'homme qui m'a ruiné. Ce salaud à la mort de mon mari, il m'a dépouillé. Je lui souhaite d'aller en enfer, enfin un discours. J'ai dit, et vous avez une sœur religieuse? Ben dit-on, oh, mais ma sœur, c'est une sainte. Moi, je suis qu'une vieille peau. J'ai envie de crever. Allez, donnez-moi une cigarette. Tout ça, une dame de 80 ans. Oh là là, j'étais horrifié, c'est bien ça. Elle rongeait son os de haine contre cet homme qu'elle habitait un immeuble qui était quand même très luxueux, dans un appartement de 5 pièces. Je vois pas où elle avait été ruinée. Mais elle était contente de ronger sa haine comme ça. Oh là là, c'était triste. Alors j'ai dit, madame, je prierai pour vous. Oh, faites ce que vous voulez, mais vous savez, moi, je suis qu'une vieille pauvre. Enfin, c'était un être humain qui parle comme ça, il y a de quoi pleurer. Enfin, je veux dire, c'est... Bon, et alors j'ai observé autour de gens, je comprenais pas pourquoi je voyais des gens durs, méchants, cruels envers les autres. Eh bien, chaque fois, ce sont des gens blessés par la vie. Alors Pascal Hyde raconte dans son livre que beaucoup de gens espèrent dans la vie atteindre quelque chose de généralement assez grand, important, et que souvent il y a déception parce qu'on n'y arrive pas. C'est comme ça pour beaucoup de comédiens. Au cours, Tania Balachova me disait, sur les 30 qui sont là, il y en a 5 qui seront des comédiens, tous les autres seront résorbés, soit par la vie, parce qu'ils se marient, qu'ils ont des enfants, il faut qu'ils gagnent leur vie. Mais donc, c'était... Pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Oui.
Le pardon.
Le pardon est salutaire. Si, alors, on finit par, sans s'en rendre compte, avoir une espèce de doute sur soi-même, ben finalement, t'es pas grand-chose. Tu vaux pas grand-chose, tu réussis rien. T'es pas fait, t'es minable, t'es nul. Enfin, il se fait tout un petit travail. Ça doit être très différent chez chacun. Et finalement, on finit par ne plus s'aimer, ne plus s'estimer du tout. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne s'aime plus? Eh ben, on peut plus aimer les autres. Et c'est à partir de là qu'on devient dur, impitoyable et méchant. C'est évident. Je crois que le manque de pardon, c'est un cancer de l'âme et que ça doit sûrement influencer sur la maladie elle-même. Je suis sûr qu'il y a des gens, et ça j'ai été témoin de ça avec le père Tardif, de gens qui ont reçu la grâce de pardonner et qui ont été guéris physiquement. Donc j'attache une importance énorme à cette phrase capitale dans les paroles du Christ.
Il y a une phrase que dit frère Luc et qui te convient admirablement, je crois. On le voit dans cette attitude d'amour, de don de soi. Il était frère, il n'était pas prêtre. Et à un moment donné, il dit cette phrase à son supérieur, le père Christian, « Je suis un homme libre ».
Ben oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, cet homme?
Il le prend à la blague. C'est vrai qu'il le pense parce qu'il se sent libre de choisir vraiment. Et il sait qu'il veut rester parmi ses semblables et ses frères musulmans, qui sont des êtres humains qu'il aime. Et alors après, il se rend compte que tout de même, c'est un peu orgueilleux. Alors il s'en va en disant, oui, faites place à l'homme libre, mais en se moquant de lui-même.
Mais qu'est-ce que ça veut dire être libre quand on est croyant?
Eh ben, libre, oui, enfin, c'est une phrase qu'avait dit frère Luc, je crois. Libre, c'est-à-dire de pas être accroché à des choses extérieures, de pas être passionné par ce que le monde moderne nous offre, comme ça, cette violence partout, cette télévision, où il y a sur les 3 chaînes de Paris, il y a des crimes tous les jours. C'est donner en pâture au peuple, aux êtres humains, une espèce de poison, j'appelle ça la cigarette de l'œil. C'est vrai. On est là, accroché à voir des trucs. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Et puis maintenant, j'ai entendu dire qu'il y a des nouveaux appareils où on va faire des gestes comme ça et on va obliger le personnage qu'on conduit à les tuer, démolir, casser tous les monstres et on se défoule comme ça. Mais c'est très mauvais. C'est très mauvais pour le genre humain. Qu'est-ce que c'est que c'est tout d'un coup, on devient des super Tarzan et on peut tout détruire, tout casser, tuer tout le monde. Vous vous rendez compte que ça, les gens qui passent leur temps à s'occuper de ça, et un bonhomme qui dit à la télé, « Oh, depuis qu'il y a ces nouveaux jeux, je suis dans un bonheur absolument indépassable. » Bon, alors, humanité, sauvons-nous de tout ça, essayons de montrer que c'est pas la vie, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Seigneur nous propose autre chose que ça. Et donc c'est très mauvais, très dangereux, pour les enfants surtout, qui regardent ça avec horreur et terreur. Et voilà, c'est dangereux.
Bon, nous avons parlé aujourd'hui pas mal de ce visage de Dieu, dans le rôle que tu joues là. C'est une question un petit peu centrale aussi. Quel est ce visage de Dieu? Et pour toi, quel est ce visage de Dieu qui te frappe le plus?
Ah, le visage de Dieu.
Dans ta vie personnelle.
Oh, c'est l'intime persuasion que Dieu nous aime, il nous aime dans l'amour, et qu'on ne peut pas décrire, c'est au-delà de la description, on ne peut pas expliquer ce que c'est que cette chaleur de la présence de Dieu dans votre vie, et que c'est quelque chose de tellement grand qu'on est souvent remué, bouleversé. Hein. C'est reconnaître qu'on est fait de lui, qu'on est de lui, et qu'il est en nous. Le Christ est en nous. Alors, On dit souvent l'Esprit Saint vient, mais j'ai l'impression que l'Esprit Saint aussi est en nous, et Dieu est en nous. Nous sommes deux dieux. Alors, rendons-lui grâce. Alors, à travers toutes les affres et les souffrances du monde, on se dit, alors bien sûr, beaucoup de gens se découragent, mais comment, tu vois les horreurs, ce qui se passe dans le monde, comment est-ce que Dieu permet ça? Mais Dieu ne permet pas ça. Dieu vient sauver ceux qui sont dans la... vient aider ceux qui sont dans la détresse et la peur et la mort et la souffrance. C'est pas quelqu'un qui organise ça pour pourquoi. Non, alors vous voyez, des mauvaises idées sur Dieu. Dieu, c'est la chaleur, c'est le partage, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est reconnaître que chaque être humain est digne d'une attention comme quelque chose de sacré. Chaque être humain est une invention, une créature sacrée. Alors voilà, essayons de nous persuader de ça et d'aider les gens à vivre et à sortir de leurs problèmes et de leur misère, et il y a beaucoup de choses à faire. Oui, oui. Aimez-vous les uns les autres. Quand on dit ça, les gens, oh, moi, oui, il y a des gens qui m'ont dit le pardon, mais jamais je préfère crever que pardonner. Jamais je pardonnerai avec une violence comme ça. Bon, eh bien, il faut prier pour eux, il n'y a pas autre chose à faire. Voilà.
Merci. Alors peut-être à vous aussi de poser des questions maintenant dans la salle à Saint-Maurice. On va pouvoir échanger avec Michael, puisque nous sommes en direct ici entre Bari, le sud de l'Italie. Il y a d'ailleurs un point commun, puisque Bari, c'est Saint-Nicolas de Myre, Saint-Maurice, c'est Saint-Nicolas de Flume, mais c'était quand même le patron, le premier, le patron du deuxième. Et donc voilà, les Nicolas se retrouvent pour nous rassembler.
Si quelqu'un souhaite, pourquoi pas faire un commentaire, profiter de cette si belle présence de Michael Lonsdale ce soir. Oui, je vais vous demander de faire une chose que je n'ai pas faite moi-même. Je m'appelle Nicolas Michel. Si vous avez la gentillesse avant de poser la question, de bien vouloir simplement dire votre nom, tenir le micro pas trop près de votre bouche, pas trop loin non plus. Je vous le passe et vous avez la gentillesse de me le rendre tout à l'heure. Voilà.
Alors, je m'appelle Monique Lombardi et puis je voudrais savoir si vous êtes en contact encore actuellement avec tous ceux qui ont partagé cette magnifique expérience de ce film. Si vous continuez de vous voir ou de vous rencontrer.
Écoutez, nous nous voyons souvent parce que, par exemple, le 19, il y avait une réunion.
Tu peux y aller.
Le 19, il y avait une réunion. Ah oui, parce que j'entends ma voix, mais en écho, c'est un peu bizarre. Bon.
Il n'y a pas de difficulté, on vous entend très bien dans la salle.
Bon. Alors, il y a toutes sortes de réunions, de plaisir pour partager le succès de ce film. Et le 19, il y avait une grande réunion. Bon, je ne pouvais pas y être puisque je travaillais ici. Donc, on se revoit et puis on se téléphone. Et puis, je pense que nous resterons comme soudés par quelque chose d'assez exceptionnel dans leur vie. Et dans la mienne aussi. Oui, oui, on est frères maintenant de quelque chose, d'une composition comme ça, de travail partagé dans quelque chose de vrai, de beau et qui touche le cœur des gens.
C'est le Père Emmanuel, je viens de la Belgique, rien que pour suivre ces conférences de Saint-Nicolas. Je suis ami de la communauté de la fraternité Eckharistine, de Château-Rimat, et maintenant, voilà, à Épinacé. Voilà, je voudrais un peu poser la question d'abord de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré pour mettre ce titre-là de « Les hommes et les dieux ». D'abord, c'est un, et puis de deux, à vous entendre parler, vous avez une expérience quand même forte par rapport au pardon. Est-ce que quelque part, c'est parce que le monde a un peu essayé, surtout le monde occidental, de tourner le dos à Dieu, voilà pourquoi vous voulez que le monde puisse se réconcilier avec Dieu, ou bien parce que Dieu ne veut pas être resté Dieu sans les hommes. C'est-à-dire que cette relation-là, ce dynamisme-là, qui vous a poussé d'abord à vous engager et surtout à témoigner de tout ce que vous êtes en train de dire en rapport avec le monde et surtout avec le monde occidental. Voilà, c'est un peu ça que je voudrais savoir. Merci.
Pour répondre, parce qu'il y a plusieurs questions. La première, sur, ça m'avait intrigué au départ parce que je me suis dit, mais quel Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça, des hommes et des dieux? Est-ce que c'est les dieux vaudous? Est-ce que c'est les dieux... Et finalement, c'est un extrait d'un psaume où il est dit, j'ai pas eu le temps de chercher lequel psaume, mais on dit, vous serez des dieux et des hommes, mais vous finirez aussi. C'est un extrait d'un psaume. Ça veut trop rire, je trouve, mais ça, maintenant, ça y est, l'appellation est acceptée, les gens en parlent sans se poser de questions, sans dire, mais quel dieu et quels hommes. Oui, c'est un titre bizarre, mais enfin, ça fonctionne, ça marche. Vous savez, tout n'est pas forcément explicable. C'est Xavier Beauvois qui a voulu ce titre. Et c'est un homme qui a une perception très, très forte par moment. Il est inspiré par moment. Et dans sa mise en scène de ce film, il a été d'une invention, mais d'un respect, une dévotion pour ses prêtres, ses moines, tout à fait exceptionnelle. Et il a eu deux, trois déclics comme ça d'inventions incroyables. L'histoire de la scène où on apporte le vin et que tout le monde va être filmé longuement comme ça, les uns en pleurant, au moment où ils ont tous accepté le sacrifice. Il l'a complètement inventé, cette scène-là. Il a dit, je veux faire quelque chose de beau. Et puis, quand j'ai lu la lettre aussi que le frère Luc avait écrite, il est venu en pleurant à la fin en me disant, écoute, ce film, tu sais, pour moi, c'est tellement important, c'est tellement ma vie, etc. Donc voilà quelqu'un qui est sollicité par Dieu. Et je ne sais pas, peut-être que on va voir si ça, dans les profondeurs de son cœur et de son âme, s'il est touché. Mais il y a une approche très sérieuse en tout cas. Oui, alors après. Oui, redites-moi un peu la question.
Il y avait la question du pardon et puis de ce monde sans Dieu qui finalement, est-ce que c'est pas un petit peu ton désir de vouloir réconcilier cette humanité avec Dieu? Est-ce que Dieu a besoin des hommes et ce rapport entre Dieu et les hommes dans ce monde?
Oui. Eh bien oui, parce que le monde en ce moment est techniquement bouleversé par des choses absolument diaboliques, ces histoires d'argent, de machin, enfin. Dans quoi est-ce qu'on va? C'est très grave et très, très inquiétant pour le genre humain. Et nous sommes confrontés à quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire la quantité d'êtres humains. Ça n'a jamais été comme ça jusqu'à maintenant. Et quand on nous parle de je ne sais combien de millions de Chinois et de je ne sais combien de gens, hier soir il y avait une émission sur le Bangladesh, où ces gens, comment leur territoire est mangé par la mer, ils vont bien devoir aller s'exiler, où on ne sait pas, et c'est tout ça, il y a des... Et puis regardez les 350 personnes écrasées sur un pont pour un jour de fête, enfin, et autour de la Mecque, quand le nombre de gens est épuisé, écrasé aussi, tellement il y a de gens qui se bousculent et qui ne voient plus les autres, et qui sont des fourmis comme ça, c'est inquiétant. Alors donc, il va falloir essayer, il y a des gens qui y travaillent sérieusement, à voir comment on va cohabiter avec cette quantité de gens qu'il va falloir nourrir, loger, et ils ont beaucoup et aimer surtout, oui. Me souffle mon... Oui.
Oui, bonsoir. Alors, je m'appelle Alexandre Machu. Je suis actuellement étudiant à l'Institut Philanthropos et on travaille sur les liens en anthropologie entre la personne humaine et l'art. Et donc, on a eu votre parcours professionnel, on a eu votre parcours spirituel, et puis on voit avec des hommes et des dieux que ces deux chemins se rejoignent. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça?
Non, parce qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent aux problèmes spirituels. Il y a eu un très beau film d'Alain Cavalier sur Thérèse de Lisieux. Lui aussi pas croyant du tout, mais fasciné par cette jeune femme dont il a fait un très très beau film. Alors ce sont ces films-là qui ont aidé à des succès à Cannes énormes, et puis le film de La vie est belle, là aussi, très impressionnante, sur les camps avec ses enfants, et on manque de spiritualité, mais je crois que ça bouge un peu maintenant. Devant le succès financier de ce film, les producteurs vont réfléchir, en disant, il y a peut-être des terrains là à explorer, parce que tout de suite la gourmandise financière s'en mêle, hein. se faire du fric. Et puis, voilà, alors là, là, devant le succès mais absolument incroyable de ce film, 3 millions de Français l'ont vu bientôt, et puis ça a été projeté dans 50 pays. C'est énorme. Donc, ça va peut-être un peu leur donner l'envie de s'approcher du spirituel. Il y a peut-être manière à gagner de l'argent. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Hein.
Oui, bonsoir, Carole Michel. J'aurais deux questions. La première concerne la fameuse scène du dernier repas que les frères prennent ensemble. Pourquoi la musique du lac des cygnes? Pourquoi quelque chose de laïque? Et ma deuxième question, c'est à propos de votre vie plus personnelle. Donc vous appartenez au monde du cinéma, c'est un monde qui est réputé pour être difficile. Est-ce que vous trouvez quand même l'occasion de témoigner de votre foi dans ce monde-là ou pas?
Oui, je répondais d'abord à la deuxième question. En effet, à tel point, des interviews et des choses, j'ai parlé de ma foi, parce que Dominique Ray, là, l'évêque de Toulon actuellement, est un grand ami, qui m'a dit, tu sais, quand on a un trésor d'avoir la présence de Dieu dans sa vie, il faut en parler, il faut pas garder ça pour soi. Et beaucoup de nos camarades de métier ont eu très peur de dire leur foi parce que beaucoup de gens, les noms les moindres, Patrick Chéreau, des grands metteurs en scène de théâtre et de cinéma, ne s'intéressent très peu à ce qui est spirituel. Même Costa Gavras a fait ce film qui s'appelle Amen, qui est une chose fausse et dommage. C'est un grand cinéaste. Et donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire?
Ton témoignage à toi dans ce milieu-là.
Oui, alors, quand j'en parlais, comme ça, un peu de mes approches spirituelles, il y a quelques années, il y a 10-15 ans, on me disait, écoute, fiche-nous la paix avec ça, ça nous intéresse strictement pas, c'est nul, ça fout-nous la paix, c'est carrément violent. Alors moi, je me retirais un peu peiné, en me disant, bah ouais, t'es pas très capable d'évangéliser, hein. Et puis, oui, t'en remets main sur la route.
Alors, petit à petit, tu as pu recommencer à témoigner un petit peu de ça.
Oui,
maintenant,
c'est
la réceptivité est plus grande.
Oui, parce qu'avec les charismatiques, un jour, ils ont, je vais dans un groupe, on a fondé un groupe de prière avec Dominique Ray pour les artistes, puis j'allais dans une seconde réunion pour des gens plus âgés, avec une merveilleuse dame bretonne qui s'appelait Jacqueline de Pellanster, une femme, sainte femme, je ne peux pas dire d'autres mots. Et elle m'a dit un jour, bah, tu sais, aujourd'hui, on se réunit pas, on va évangéliser dans la rue. Oh, tu viens avec nous. Je dis, moi, évangéliser, mais je suis incapable. Mais si, allez, tu viens, viens. Alors on part, on se met devant la sortie du métro du Roc. Il y avait une marchande de fleurs qui dit, soyez gentils, vous bouchez un peu la vue, là. On a emporté notre icône, une guitare et puis des livres pour chanter. Poussez-vous un petit peu sur le côté. Alors on s'est mis, et alors c'est Jacqueline de Pellanster, vieille dame, m'a dit, alors voilà, vous allez par deux, il y en a un qui parle et l'autre qui prie. J'ai dit, moi je prie. Et bon, je me lance complètement affolé à l'idée qu'il fallait dire quelque chose. À peine avait-on commencé à chanter, à louer le Seigneur, on emporte toujours une icône pour montrer, parce que les gens disent, c'est une secte, votre truc là, c'est quoi? Alors on dit, non, on prie comme ça pour évangéliser. Et il y a deux dames qui parlent à la personne avec qui j'étais, qui leur explique un peu, puis il y en a une qui me regarde et qui me dit, mais je vous connais, vous? Vous êtes croyant, non? Ben, je dis, oui, madame, sans ça, je serais pas là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et d'une voix mourante, je dis, j'évangélise. Très gêné de dire ça. Mais c'est formidable, mais bravo, mais écoutez, vous devriez faire ça plus souvent dans votre métier. Et alors ça m'a tellement réconforté, je me suis dit, voilà, il faut avoir le culot de... Il y a une petite épreuve un peu gênante à passer en disant, t'es pas capable, tu peux pas y arriver, et puis c'est le mauvais qui travaille en vous. Il fera tout pour que vous ne restiez sans rien faire. Et alors là, à partir de là, j'ai eu le culot d'évangéliser, et puis c'était devenu un plaisir incroyable. Alors souvent, on a eu des réunions à Toulon avec Dominique Ray sur des gens, justement, pour leur expliquer qu'on pouvait évangéliser. Et j'étais assis à côté d'une dame qui m'a dit, moi, évangéliser, mais pas possible, mais jamais, il n'en est pas question. J'ai dit, mais pourquoi, madame, vous dites qu'il n'en est pas question? Mais parce que je ne saurais pas. J'ai dit, mais apprenez. Et voyez comment les autres font. Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas? Vous voyez, ce n'est pas vous qui parlez là, c'est le mauvais en vous qui vous empêche d'agir. Eh bien, rejetez-le et puis venez. Vous verrez que ce n'est pas compliqué d'évangéliser. Et au contraire, c'est une délivrance quand on sent qu'il y a des gens qui commencent à demander ce que vous faites. On parle de Dieu, on parle de Christ, tout ça. C'est formidable. Voilà un exemple d'audace qu'il faut passer. Il faut sauter le pas, hein, parce que sinon, on est paralysé et puis on ne fait rien.
Il y avait la question de la consigne.
Ah oui, alors, moi aussi j'étais étonné. Je pensais qu'on aurait pu mettre le Requiem de Mozart ou la messe en si. Enfin, et il a fait ça parce que Frère Luc était un grand amateur de musique. Il adorait chanter Edith Piaf. Et il avait de l'émotion comme ça, comment est-ce qu'on dit, un peu populaire. Et le lac des cygnes, c'est la mort du cygne. Hein. C'est donc... c'est un peu leur... il est question de leur mort à eux dans cette musique. Parce que c'est le cygne qui va mourir, et bien eux aussi. Donc il a trouvé que l'impact, comment est-ce qu'on dit, le climat de cette musique, qui est très prenante et très efficace, fonctionne très bien, voilà. C'est pas ce que je pense comme musique, mais en tout cas, ça a un impact incroyable. Quand c'est dansé par Margot Fontaine ou des grands danseurs, les gens pleurent à chaudes larmes.
Merci, merci beaucoup pour ces si belles réponses. Il y a encore quelques questions dans la salle. Je passe le micro.
Bonsoir, Pierre Pistoletti. J'ai vu dans la presse qu'avec toute l'équipe, avec tous les acteurs, vous avez vécu une retraite à l'abbaye trappiste de Tamiers en vue de la préparation du film. Et je voudrais savoir comment ça s'est passé et quel impact ça a eu sur les autres acteurs.
Ah, merci de poser la question. Je ne peux pas vous répondre. Moi, je n'étais pas présent. J'ai fait de nombreux séjours chez les cisterciens, mais pas à Tamiers. Pas à Pamiers, et... non, à Tamiers, oui, je confonds Tamiers et Pamiers, ce n'est pas la même chose. Et ils sont allés, eux, passer une semaine, en étant assez réticents au départ, en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va trouver sur des vieux barbons qui vont pas faire attention à nous, qui vont être plongés dans leur lit ou à leur prière. Et quand ils ont vu qu'ils ont été accueillis à bras ouverts, et qu'ils ont eu affaire à des gens de leur âge, et qu'ils ont été reçus, mais très chaleureusement et très cordialement, ça les a beaucoup impressionnés. Ils se sont rendus compte que les moines, ce n'étaient pas des pauvres gens enfermés dans des trucs morts, ils étaient vivants, et à tel point qu'ils sont restés en contact, souvent même, hein, ils s'envoient des mails, et ils ont été très contents et très heureux. Parce qu'on leur a expliqué que représenter ces moines, c'était quelque chose de très grand. Et je crois qu'à partir de, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je me répète, l'habit ne fait pas le moine, mais si, une fois habillé comme ça en cistercien, ils avaient une espèce de tenue qui était respectueuse et honorée, comment dire, ils étaient émus hein, de jouer ça. Donc voilà, ça s'est très très bien passé et Lambert Wilson est resté en contact très proche d'un des moines, un des pères là-bas.
Je sais que ça n'est pas le rôle de quelqu'un qui passe le micro, mais malgré tout, je suis très très tenté de vous poser une question moi-même. Il me semble que parmi tous les motifs pour lesquels le film Des hommes et des dieux touche, il y a celui du contexte des relations entre chrétiens et musulmans. Et j'aurais aimé vous demander si, dans le fond, ce film qui manifestement touche quant à la compréhension mutuelle entre les uns et les autres, si ce film a été l'occasion pour vous d'entendre des témoignages de ce que cette dimension du film a pu faire. Il me semble que l'une des raisons pour lesquelles le film touche tient aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui parfois dans la relation entre les chrétiens et les musulmans. Et manifestement, ce film est à cet égard très très apaisant et ouvre à la compréhension mutuelle. Et j'aurais aimé savoir si vous-même, vous avez expérimenté certains des effets du film de ce point de vue.
J'avais déjà vécu au Maroc de 1939 à 1949, où j'ai vécu 10 ans, toute mon adolescence. Et on a habité à un moment donné, mon père étant en résidence surveillée en tant qu'anglais, on a habité la Médina, un petit village où il était en résidence. Et mes copains dans la rue, c'était des gosses arabes. Et ben vraiment, c'était des copains, les garçons, les filles, ils ont joué comme des fous. Et il n'allait pas à l'école. Moi, j'allais un peu à l'école, mais c'était très dur parce que il fallait chanter Maréchal, nous voilà. Et j'étais le fils de l'anglais prisonnier, donc il y avait des gens qui voulaient me faire du mal. Mais heureusement que il y avait des enfants de famille qui étaient gaullistes, alors c'est eux qui me protégeaient. Et donc j'ai appris à voir chez les Arabes des êtres humains. Donc, qui vivent autrement, qui ont alors un idéal religieux différent. Pas si loin que ça, on est quand même... Alors, est-ce que c'est le même Dieu ou pas le même Dieu? Je pense que c'est le même Dieu que nous aimons, sous des formes différentes, mais c'est le même esprit. Et donc, là, au Maroc, pendant le tournage, ça a été mais une joie de avec les techniciens qui étaient... C'est un film produit par une société marocaine également. Et donc l'habilleuse, la maquilleuse, c'était des femmes musulmanes, enfin, arabes, mais d'une gentillesse avec nous, mais incroyable. Et on était comme dans le film, invités à aller dans les familles, en ville, pour les fêtes, pour manger, etc., partager. Et voilà, alors on sentait chez ces arabes un cœur, quoi. On sentait des gens, ils souriaient énormément d'abord. Contrairement aux Algériens, qui sont plus douloureux, qui sont dans une terreur, qui n'arrivent pas à s'apaiser complètement, ils ont peur. Mais les Marocains sont extrêmement joyeux et intelligents et très bons travailleurs. Donc c'était une profonde... Je comprends tout à fait comment Frère Luc a été passionné par la joie d'aider ces gens, de les soigner et de créer une réelle amitié profonde, hein. J'avais pas jamais de problème de questions de religieuses, on voit bien dans le film, au moment de la circoncision du petit gosse qui baille, c'était très amusant d'ailleurs. Et puis, ensuite, l'imam qui... j'ai évité une grosse erreur, parce que quand il a enregistré ses paroles, l'imam, on a coupé, le metteur en scène a dit couper avant la fin de ce qu'il était en train de lire. J'ai dit ça, c'est une gaffe terrible, parce qu'il fallait pas couper la parole, du coup, c'est comme si en lisant les évangiles, on vous arrêtait en plein milieu. J'ai dit, il va t'excuser parce que là, tu as fait une offense. Il fallait pas dire couper en plein milieu. C'était un peu long, c'est vrai, mais enfin bon. Et donc, les paroles là, des Arabes qui nous parlent, catastrophés par ce qui se passe dans leur pays, et comme dit la très belle phrase de la femme, vous êtes les branches et nous sommes les oiseaux. C'est extraordinaire de voir la complicité, le partage qu'il y avait avec ces Arabes. Ce sont des êtres humains comme nous, qui vivent autre chose. Alors évidemment, il y a un fanatisme, vous l'avez un petit peu vécu ici, je crois en Suisse, à propos des mosquées, en effet. Et j'étais très étonné qu'on ne mentionne pas le fait que il faut être prudent avec les mosquées parce que on souhaite évidemment que le minaret soit plus haut que les monuments chrétiens. Alors il faut pas accepter ça. Mais qu'on accepte des lieux de prière, oui, mais avec une mosquée ou un minaret modeste, quoi. Il n'y a pas besoin de vouloir faire du triomphalisme et que la soit plus haute que les cathédrales ou les églises. Une petite guéguerre, là. Donc, c'est difficile, hein, parce qu'ils sont là, présents, les Arabes, dans notre pays. On voit bien en France, là, du côté de Barbès, c'est un grouillement incroyable, incroyable, incroyable. Et voilà, il faut que nous nous habituions à ce partage, et les Arabes et les Africains qui arrivent à faire des études et se révèlent être des gens très passionnants, hein, très intelligents, très sensibles. Mais il y a les fanatiques qui sont là et qui gâchent un peu les choses en voulant entraîner les gens à ruiner tout ça et à faire triompher l'islam. Ben cela, ils nous cassent les pieds.
Michael Lonsdale, merci beaucoup. Père Nicolas Butet, si je m'en remets à ce qui a été convenu au début, nous arriverions au terme de cet entretien. Je voudrais quand même, avant de conclure, simplement demander si à Bari, vous souhaitez, vous, encore ajouter quelque chose, mais ça n'est pas qu'ici, la salle en est assez, on en redemanderait, mais aussi par respect pour Michael Lonsdale qui tourne et qui se lève tôt demain matin.
Je ne sais pas du tout si je travaille demain. Je suis complètement
J'ai essayé de répéter ce que notre ami le père Nicolas disait tout à l'heure. On s'arrangera demain, Nicolas. Bon, alors
merci, parce que j'ai entendu. Mais il apprend son programme demain matin à 6h30. Donc,
oui, mais c'est pas sûr encore. Vous savez, j'ai complètement oublié. Vous voyez qu'on était à des kilomètres les uns des autres. J'avais l'impression d'être avec vous complètement. Et je vous remercie d'être venu. Merci à vous.
On peut peut-être terminer par une prière.
Oui, volontiers.
Si vous êtes d'accord, on peut se confier.
Volontiers.
Tu veux nous aider à prier, Michel?
Oui.
Tu veux nous aider à prier?
Ah oui, mais quoi, tu veux une prière connue ou une prière inventée?
De ton cœur.
Ah, bah écoutez, merci,
hein?
Oui, merci Seigneur de nous réunir et de savoir que nous cherchons obscurément ou de façon claire ce que le Christ représente dans nos vies. Et que de sentir que, vous voyez, il est là aujourd'hui avec nous. Nous sommes réunis en son nom. Donc c'est déjà très précieux et très chaleureux dans le cœur de savoir qu'il y a, comme je ne sais pas vous êtes, 500 personnes qui viennent comme ça pour qu'on leur parle. Et moi, je suis très ému de vous raconter ce que je vous dis. C'est un peu malhabile par moment, mais je suis toujours étonné, d'ailleurs, que vous écoutiez. voilà, alors c'est un partage, je dirais. Merci donc, Seigneur, de nous permettre ce genre de réunion. Et ne pas hésiter chaque fois que l'on peut témoigner de ce que le Christ représente pour nous. Et de le faire savoir et de le proposer aux gens de façon discrète. Hein. C'est pas en arrivant, allez, Jésus t'aime et tout ça avec une pancarte. Non, non. Il faut trouver le cœur des gens qui existent et puis arriver à leur parler. Voilà, aide-nous, Seigneur, à faire ce travail-là. Dans toutes les relations d'affaires, d'art, de rencontres, permets-nous d'être témoins de ta présence dans le monde. Oui.
Amen. Un tout grand merci. Ensemble, nous pouvons nous tourner vers ce Père commun qui nous a rassemblés ce soir et qui nous continue à rassembler en priant les uns pour les autres, en s'encourageant les uns les autres, en devenant vraiment des enfants de Dieu. Ce qui est bouleversant dans ce film, peut-être aussi dans toute ta vie, Michael, c'est au cœur même de cette vulnérabilité, au cœur même de la pauvreté de l'âme, il y a cette puissance de la grâce qui se déploie. Et ça, je crois que c'est le grand mystère et le grand miracle du christianisme. La puissance qui se greffe sur la misère afin de faire triompher la gloire de Dieu et non pas la nôtre. Mmh. C'est ça dont nous allons parler ce soir. Alors ensemble, disons cette prière des enfants de Dieu. Mmh. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui, je dirais, le pain matériel et spirituel de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation et délivre-nous du mal. Oui, Seigneur. Amen.
Amen. Merci.
Nous disons au revoir à Barry. Merci et bonne nuit chez vous.
Merci.
Nous de même, avec tout. Ça, c'est un travail.